Les éditions de la FMSH présentent des livres et des auteurs. Partenaires inégaux, les universités en Afrique sous influence américaine. Un livre de Fabrice Jaumont.
J'ai commencé le travail sur ce livre en 2007. J'étais très intrigué par l'univers des fondations philanthropiques américaines. J'étais simplement ébahi de voir autant de personnes désireuses de donner de l'argent pour des projets éducatifs. Et puis au fur et à mesure, un peu par opportunité, j'ai rencontré une organisation de fondation, un partenariat de fondation. C'est dédié au développement du secteur universitaire en Afrique. C'est cette relation un peu riche-pauvre, nord-sud, qui m'a intéressé et quels sont les liens et quelle est l'influence, d'une certaine manière, de l'argent dans le développement des jeunes Africains, des penseurs, de l'élite économique de l'Afrique. Et c'est sur ce sujet-là que je me suis penché en épluchant des milliers et des milliers de subventions, ou des grants, comme on dit en anglais. J'ai aussi eu la chance d'avoir à ma disposition des centaines d'entretiens d'universitaires africains, de profs, d'étudiants. Donc je voulais savoir si ces fondations avaient une stratégie et si elles cherchaient aussi à influencer ce continent vers leur fin. Et ce que j'ai trouvé dans les archives de ces fondations, en parlant au directeur de programme, finalement est un peu plus nuancé. On se rend compte que les uns ont besoin des autres, que les donateurs ont besoin des récipiendaires pour valider leur choix, et que les récipiendaires ont aussi besoin des donateurs pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Après, c'est une course aussi à l'argent, c'est une compétition pour les universités en Afrique. Donc il y a forcément un lien aussi inégal entre le riche et le pauvre. C'est pour ça que le titre s'appelle « Partenaires inégaux ». Il faut être partenaire, mais en même temps, celui qui détient l'argent est souvent celui qui dicte l'ordre du jour. Et c'est un peu voilà, cette manière de négocier cet ordre du jour qui m'intéresse dans l'histoire. C'est quelle est la voie des acteurs du terrain, est-ce qu'ils ont un mot à dire dans les choix, dans les stratégies des fondations? Et puis, est-ce que les fondations sont-elles vraiment en train d'imposer leur choix, ou est-ce qu'elles ont des mécanismes pour prendre en compte les points de vue des récipiendaires? Il y a un exemple qui me revient souvent, c'est celui de l'investissement qui a été fait dans le développement de l'Internet dans les universités africaines, qui ne correspondait pas du tout aux priorités des fondations. Elles étaient très intéressées dans le développement des sciences sociales ou des doctorats en Afrique, ce qui n'intéressait que moyennement les universités, qui avaient d'abord des besoins basiques, c'est-à-dire l'Internet, l'électricité. Finalement, les universités ont réussi à convaincre les fondations à créer un consortium de développement de l'Internet sur les campus africains, et on s'est adapté finalement à ce qui était leur priorité. Un autre des chapitres, c'était de dire que finalement, ces fondations sont faites de chair et d'os. Voilà, une personne peut aussi parfois avoir ses propres choix, sa propre envie d'aider telle ou telle initiative, tel ou tel projet. Donc la philanthropie que je décris dans le livre, c'est surtout celle des grandes maisons, des grandes fondations, qui pour certaines sont là depuis une centaine d'années, avec 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. La Ford a 400 personnes. Elles sont très organisées, elles sont structurées, elles ont des priorités. Puis voilà, elles ont aussi une stratégie.